Bonjour à tous. Alors, il me semble que les enfants peuvent partir à la garderie. Un grand merci à Nicolas pour le partage de ce matin et à Elisabeth pour le témoignage. Ce que je vais apporter va un peu reprendre quelques éléments qui ont été dits, peut-être rassembler un peu, mais c'est vrai que on a déjà été beaucoup édifiés, encouragés par ce qui a été dit. Je vous invite à la prière. Merci notre Père, parce que tu es bien présent dans notre vie, parce que ce que nous lisons dans ta parole, ce ne sont pas juste des théories, mais cela nous raconte, cela nous décrit qui tu es et ce que tu veux pour nous, la relation intime que tu nous offres d'avoir avec toi. Nous te prions pour que ta parole puisse encore et encore nous rapprocher de toi, nous édifier, nous encourager, nous interpeller et que nous puissions être tes disciples actifs, tes enfants obéissant, heureux d'être tes enfants et aussi tes témoins. Que ta parole soit encore à l'œuvre grâce à ton esprit qui nous aide à la saisir. Amen. Nicolas l'a déjà dit, aujourd'hui c'est un jour particulier à plusieurs titres. Premier tour des élections présidentielles. Il y aura peut-être beaucoup de gens déçus et probablement aussi des gens satisfaits par les résultats. Alors ce n'est que le premier tour, mais déjà c'est pas mal. Et par ailleurs, c'est le dimanche des Rameaux, dimanche qui précède le dimanche de Pâques. À l'époque de Jésus, il y avait une certaine attente messianique, l'attente d'un sauveur, l'attente d'un homme envoyé par Dieu qui libérera les Juifs de la domination romaine. Et Jésus était perçu par beaucoup comme étant ce sauveur. Mais il était plutôt considéré comme un sauveur géopolitique. Et c'est notamment pour cela, entre autres, qu'il a été acclamé lorsqu'il a fait son entrée à Jérusalem sur un âne. Le peuple a déposé des vêtements en guise de tapis rouge. Ils ont déposé des branches, agité aussi des branches de palmier pour vénérer leur sauveur. Et aujourd'hui, le peuple français a des attentes. Les périodes d'élection sont souvent des périodes où les Français espèrent quelque chose. Ils espèrent une politique qui rendra leur vie meilleure. Ils espèrent avoir un dirigeant qui les comprend, qui leur offrira plus de confort de vie, plus de justice, plus de sécurité, plus de pouvoir d'achat, plus d'écologie, etc. Dans tous les cas, que ce soit à l'époque de Jésus ou à notre époque, le peuple aspire à un meilleur avenir, à plus d'assurance face à l'insécurité de l'emploi, l'insécurité géopolitique, l'instabilité du pouvoir d'achat ou du système de santé. Si le peuple a cette attente, cela manifeste aussi une certaine insatisfaction de la situation actuelle, ou alors une crainte. Ceux qui ont une vie difficile souhaitent plus de confort et ceux qui ont déjà un confort ont peur de le perdre. Et nous, que craignons-nous? Elisabeth a parlé des craintes. Je ne pense pas que ce soit un cas isolé, enfin une situation isolée, que d'avoir des craintes pour l'avenir, des inquiétudes. Avons-nous des craintes, nous aussi, concernant certains domaines, l'avenir, peut-être l'avenir de notre Église qui se trouve en milieu rural, l'avenir de notre situation personnelle, professionnelle, familiale, l'avenir de nos proches, de nos enfants, de nos petits-enfants, l'avenir de notre société, de notre monde qui semble se dégrader? Alors face à ces questions, c'est facile de répondre rapidement que la solution, c'est Jésus. Et le témoignage d'Élisabeth nous montre que la vie avec Jésus, c'est une marche avec des hauts et des bas. Et dire juste Jésus, crois en Jésus et tout sera résolu une fois pour toutes, c'est un raisonnement un peu simpliste. Bien sûr, Jésus nous promet un bel avenir, c'est-à-dire une nouvelle vie sur une terre renouvelée. Mais en attendant, nous restons dans ce monde, un monde fragile qui connaît des difficultés. Nous restons dans ce monde, mais nous avons aussi une responsabilité. Nous sommes appelés à faire confiance, à persévérer dans l'épreuve et à annoncer notre espérance. Malgré les apparences, il n'y a pas de fatalité parce que Dieu a un plan pour l'humanité. Et je vous avoue que ce n'est pas toujours évident de garder les yeux fixés vers l'espérance. Parfois, je me demande comment la société va évoluer. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve encore comme évolution ou comme régression. Et parfois, j'ai l'impression que ce qu'on qualifie de progrès ou d'évolution n'est qu'une régression. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on assiste à une accélération sans précédent. Par exemple, la technologie fait des progrès rapides. Moi, je suis né dans les années 80, et lorsque j'y repense, j'ai assisté déjà à d'énormes révolutions. Alors pour ceux qui sont nés avant ou après, ils ont un autre point de vue peut-être, des progrès encore plus rapides ou alors plus lents, je ne sais pas. Quand j'étais plus jeune, j'écoutais la musique avec un lecteur cassette. Voilà, quand j'étais dans ma chambre tout seul et que je voulais écouter moi tout seul la musique, c'était avec un lecteur cassette. Et je me souviens, je ne l'ai pas apporté ici, mais il y avait un outil très, très utile quand on avait un lecteur cassette, c'était un stylo ou un crayon à papier qui servait à rembobiner. Puis on est passé au lecteur CD, assez rapidement. Ensuite au lecteur MP3, voilà, il fallait toujours acheter quelque chose de mieux. Et maintenant c'est le téléphone qui est connecté à Internet et on écoute en ligne avec une qualité sans précédent. Mais il n'y a pas seulement les technologies qui changent vite. Les mentalités changent. L'éthique change. Et la morale. Et parfois, on découvre que l'Église a fait des erreurs, peut-être, dans le passé. Alors, je donne juste un exemple, trois exemples. Quand dans certains milieux, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'on disait à Gobert il y a 30 ou 40 ans, mais dans certains milieux, je sais qu'on disait que aller dans un bar, danser, regarder la télé, c'était presque diabolique. Mais on découvre aussi que la société d'aujourd'hui prend des chemins dangereux dans certains domaines. Jésus a prévenu les chrétiens de son époque que tout cela allait arriver, tous ces chemins dangereux que la société prend aujourd'hui. Eh bien, c'était annoncé dans le livre, notamment de l'Apocalypse, mais pas seulement. Le Christ révèle tout ce qu'il faut à la fois pour se préparer et en même temps pour tenir bon. Se préparer à des temps difficiles, mais aussi tenir bon, car tout est entre les mains de Dieu. Depuis quelque temps, nous suivons le livre de l'Apocalypse et nous arrivons aujourd'hui au chapitre 5, qui tombe bien pour le dimanche des rameaux, car il est question de royauté, de trône et de Pâques. Et avant de lire le chapitre 5, voici un très bref résumé du chapitre 4. Dans le chapitre 4, l'apôtre Jean qui a été condamné à cause de sa foi, il a été exilé sur une île grecque, l'île de Patmos. Eh bien, l'apôtre Jean, Jésus lui apparaît pour lui révéler ce qui va arriver. Mais avant de parler des événements à venir, Jésus lui montre un peu les coulisses du ciel. Au chapitre 4, l'apôtre Jean est transporté dans le ciel et il voit un trône avec quelqu'un assis dessus. On comprend que c'est Dieu. Et autour du trône, il y a un arc-en-ciel. Il y a quatre êtres vivants qui sont à peu près les mêmes que ceux qui sont décrits dans le livre d'Ézéchiel, donc, et qui sont dans Ézéchiel des chérubins, qui représentent la création. Donc autour du trône, un arc-en-ciel, des chérubins et 24 anciens qui représentent le peuple de Dieu. Et la scène représente ces chérubins et ces anciens en train d'adorer celui qui est assis sur le trône. Et le chapitre 5 nous décrit la suite de cette scène. Et comme dans le reste du livre, le texte contient beaucoup d'images et beaucoup d'éléments symboliques. Et c'est parfois difficile de s'y retrouver. À première lecture, on a même parfois du mal à s'imaginer ce qui est décrit. Mais nous allons revoir tout ça ensemble. Chapitre 5 de l'Apocalypse. « Puis je vis, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Puis je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau, debout, comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés partout sur la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur et la gloire et la domination au siècle des siècles. » Les 4 êtres vivants répondaient « Amen !» Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Si l'on veut résumer cette scène en 2 mots ou en 3 mots, on pourrait dire que c'est un agneau qui prend un livre et qui se fait adorer. Un agneau qui prend un livre et il reçoit des louanges. Voilà donc cette scène de l'Apocalypse. Mais qui est cet agneau? Et que symbolise le livre? Ce sont les 2 questions que nous allons aborder. Et nous ferons appel à l'Ancien Testament, car une grande partie de ce qui est révélé dans l'Apocalypse reprend simplement des images de l'Ancien Testament. Premièrement, qui est l'agneau? Si vous êtes un peu familier avec la Bible, vous me direz que l'agneau, c'est Jésus. Et c'est bien le cas. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment cet agneau est présenté et dans quel contexte il apparaît. Bien comprendre cette présentation de l'agneau nous aidera à bien comprendre que symbolise le livre si important. Au début du passage, celui qui est assis sur le trône tient dans sa main droite un livre, fermé grâce à 7 sceaux. Les livres de l'époque étaient des rouleaux, et les sceaux servaient à fermer les rouleaux, ainsi qu'à s'assurer que seul le destinataire ouvre le livre. Si le sceau était rompu, eh bien, cela se saurait. Un ange prend alors la parole et proclame d'une voix forte : qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ? Mais le narrateur précise que personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Ce constat attriste l'apôtre Jean, et il en pleure. Mais l'un des anciens lui dit alors au verset 5, « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. » Le lion, c'était l'emblème de la tribu de Juda, l'une des 12 tribus d'Israël. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 49, il est dit que Juda est un jeune lion et que le sceptre ne s'éloignera pas de cette tribu. Autrement dit, Juda, c'est la tribu royale, celle où naîtra le roi envoyé par Dieu. Le lion était considéré comme le roi des animaux. Celui qui est digne d'ouvrir le livre est donc un roi fort et puissant. Le personnage annoncé est encore le rejeton de la tribu de David. Cette expression nous vient du prophète Ésaïe au chapitre 6. Et l'apôtre Paul le cite aussi pour préciser qu'il parle de celui qui règnera sur les nations. Ce rejeton de la tribu de David, c'est celui qui règnera sur les nations. Il s'agit donc du roi messianique, descendant du roi David. Et l'ancien dit aussi qu'il a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. À l'époque de Jean, l'empereur, c'était le Semper Victor, ce qui signifie le toujours victorieux. Mais dans cette vision, que ce soit dans le ciel, sur la terre ou sous la terre, c'est-à-dire parmi toute la création, parmi toutes les créatures, personne, même pas l'empereur, n'était assez victorieux ou assez puissant pour ouvrir le livre. Il fallait donc remplir des conditions pour ouvrir le livre, et seul le roi Messie les a remplies. Alors jusqu'à maintenant, on nous a dépeint un Messie grand, un Messie victorieux, mais qui est-ce qui apparaît pour prendre le livre ? Non pas un lion, non pas un roi, mais un agneau. Verset 6. Puis je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens, donc au milieu du trône il y a celui qui est assis, il y a aussi l'agneau. Donc on peut imaginer peut-être un grand trône ou alors l'agneau assis avec Dieu. Puis je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout comme offert en sacrifice. Alors une traduction peut-être meilleure, c'est debout un agneau comme étant immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Par rapport au lion, l'agneau était un animal plutôt fragile. De plus, ici, l'agneau est comme offert en sacrifice. En fait, il a été immolé, il a été égorgé pour être sacrifié. Mais il se tient maintenant debout. Il y a un fort contraste entre le lion puissant, annoncé juste avant, et l'agneau fragile, sacrifié. Et c'est là où on constate et où l'on redécouvre la puissance de la bonne nouvelle. Et Nicolas nous en a parlé. Le roi de l'univers est victorieux, mais il est aussi humble, et il a vaincu la mort. Le grand roi de l'univers est tellement grand qu'il s'est fait petit, humble. L'agneau sacrifié fait référence au sacrifice demandé dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, et notamment les sacrifices expiatoires faits à cause des fautes du peuple. Mais l'agneau sacrifié nous rappelle aussi l'agneau pascal, cet agneau qui a été sacrifié lors de la Pâque, au moment de la sortie d'Égypte. Cet agneau mourait à la place du premier-né de chaque famille. L'agneau de l'Apocalypse est celui qui est mort pour payer nos fautes, celui qui est mort à notre place et qui a vaincu la mort. Cet agneau qui a été égorgé, immolé, se tient maintenant debout. Il n'est pas mort, mais il est ressuscité. Il est revenu à la vie. Au verset 6, nous venons de lire qu'il a 7 cornes et 7 yeux. Alors, imaginez un agneau avec 7 cornes et 7 yeux, 7 yeux, je ne sais pas comment on peut dire, c'est un peu étrange. Alors, c'est symbolique. À l'époque, les cornes étaient un symbole de force, de puissance. Et les yeux, alors on nous dit dans le texte, ce sont les 7 esprits de Dieu, de l'agneau, répandus sur toute la terre. Le chiffre 7 est le symbole de la perfection, de la plénitude. L'agneau est parfaitement puissant et son esprit est abondamment envoyé, répandu sur la terre. Cette scène à laquelle l'apôtre Jean assiste résume l'œuvre de Jésus sur la terre. Le Christ est venu sur terre en tant que roi. Il a été acclamé avec des rameaux. Mais peu après, les autorités religieuses, avec l'approbation d'une partie du peuple, l'ont condamné à mort. Il est mort sur la croix lors de la Pâque, mais il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il est monté au ciel pour s'asseoir sur le trône à la droite de Dieu le Père. Ensuite, à la Pentecôte, il a envoyé abondamment son esprit pour aider ses disciples à comprendre sa parole. Cette scène de l'Apocalypse représente les 4 événements marquants de l'œuvre de Jésus. La mort, l'agneau immolé. La résurrection, l'agneau debout. L'ascension, l'agneau à la droite du Père. Et la Pentecôte, l'Esprit répandu sur la terre. Alors, quel rapport avec le livre ? C'est notre deuxième point. Et ça sera un peu plus court. Quel est ce livre mystérieux ? Pour comprendre ce que représente ce livre, il faut rester dans le contexte et partir de cette vision de l'agneau. Cet agneau fait notamment référence à l'agneau de Pâques, on l'a dit. C'est à Pâques que les Hébreux ont été délivrés. Ils sont sortis d'Égypte et ils ont entamé ce que l'on appelle l'Exode. Et c'est suite à la sortie d'Égypte que le peuple d'Israël est devenu officiellement le peuple de Dieu. Voici ce que Dieu dit au peuple dans les livres de l'Exode au chapitre 19. « Si maintenant vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples. Car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Pâques, Exode, peuple de Dieu. Et que chantent les 4 chérubins dans l'Apocalypse, ainsi que les 24 anciens, lorsque l'agneau prend le livre ? Verset 9. Tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Le point commun, ce sont les prêtres. Dieu fait de son peuple des prêtres. Dans l'ancienne alliance, l'agneau a été sacrifié et Dieu a libéré son peuple pour en faire plus tard un royaume de prêtres. Ici, l'agneau de l'Apocalypse est adoré parce qu'il a constitué un royaume de prêtres, non pas seulement à partir d'Israël, mais à partir des gens de tout peuple, de toute tribu. Les prêtres, c'était des intermédiaires entre le peuple et Dieu. Dans la nouvelle alliance, tous seront prêtres, dans le sens où tous auront accès directement à Dieu. Il n'y aura plus d'intermédiaires. Il n'y a plus aujourd'hui d'intermédiaire. Le livre représente donc, la nouvelle alliance, l'ouverture de l'alliance à tous les peuples, l'accomplissement des promesses de Dieu grâce au sacrifice de Jésus. Toujours dans le livre de l'Exode, on peut lire que les tablettes de la loi étaient écrites des deux côtés, tout comme le rouleau de l'Apocalypse. Exode 32, verset 15, Moïse repartit et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans la main. Les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de chaque côté. Le rouleau, écrit des deux côtés, fait référence à ces tablettes de l'Alliance. Mais c'est la nouvelle Alliance. On sait aussi que les tables de la loi devaient être gardées dans le coffre de l'Alliance. Et qui est-ce qu'il y avait de représenté sur le coffre de l'Alliance? Des chérubins, les mêmes types d'êtres vivants qui se trouvent autour du trône. Ce livre scellé, alors ce n'est pas le Nouveau Testament, mais il représente la nouvelle Alliance, une nouvelle ère qui s'est ouverte depuis la dispersion de l'Esprit de Dieu partout dans le monde. Une ère où tous les peuples sont invités à entrer dans l'alliance, la nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Et l'arc-en-ciel, au chapitre 4, présent autour du trône, est aussi un symbole de l'alliance. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les épreuves que le monde traverse ou que nous traversons personnellement, l'alliance sera toujours là et le roi est déjà vainqueur. Pour conclure, ce texte très imagé nous rappelle l'œuvre centrale du Christ sur la croix. Il nous rappelle la puissance de Dieu, le lion, qui s'est manifesté dans son humilité et sa faiblesse, l'agneau. Tout comme les Hébreux ont été délivrés de l'esclavage en Égypte, le Christ nous délivre du mal. Tout comme l'agneau pascal a été sacrifié, le Christ s'est sacrifié pour payer nos fautes. Tout comme le peuple hébreu est parti en exode, nous sommes nous aussi en exode, le nouvel exode. Pendant leur marche dans le désert, les Hébreux ont connu des épreuves, nous aussi, pendant notre exode, nous pouvons connaître des difficultés. Mais tout comme Dieu a conduit son peuple, il nous conduit d'autant plus aujourd'hui, car son esprit est là, au milieu de nous et en nous. Et j'aime bien le témoignage d'Élisabeth qui nous rappelle que Dieu n'est pas seulement celui qui est là-haut sur son trône, mais il a envoyé son esprit en nous. Et nous sommes en route vers le pays promis, le royaume de Dieu. L'alliance est certaine et notre espérance est certaine. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci. Merci parce que tu nous conduis lors de ce nouvel exode. Tu nous conduis non plus par une colonne de feu, mais tu nous conduis par ton esprit qui est aujourd'hui au milieu de ton peuple, en nous, et que tu envoies abondamment. Merci parce que tu es ce Dieu proche qui fait alliance avec ton peuple et qui nous envoie ton esprit en nous. Aide-nous à tenir bon, à discerner les temps qui sont les nôtres pour marcher avec toi et non pas selon les désirs de ce monde, mais selon les désirs de l'Esprit. Aide-nous à, pendant cette marche, compter sur toi, jour après jour, à te remettre nos fardeaux, à te remettre l'avenir de notre société, l'avenir de l'Église, de notre famille. Tout cela t'appartient. Tu as un plan, tu as fait alliance avec nous, et cette alliance est certaine, notre espérance est certaine. Nous voulons continuer d'y croire jour après jour. Au nom de Jésus, amen.